السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, voici au 19 ذو القعدة 1446 de l'égir du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, correspondant au vendredi 16 mai 2025. Nous poursuivons l'étude de ces points importants en rapport avec la préparation des cœurs pour un bon accomplissement du pèlerinage, ce cinquième pilier de l'islam. Nous avons parlé de différents rites et des secrets qui en découlent, des sagesses que ces rites renferment en termes d'augmentation de foi et de ce que doit ressentir le croyant pendant l'accomplissement de ce pèlerinage. Encore une fois, on se rappelle l'importance de se préparer pour ce pèlerinage afin qu'il ne soit pas comme le pèlerinage de la personne insouciante ne connaissant pas le but de ses actions ni les sagesses, n'en tirant donc pas profit. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous parlerons de plusieurs points parmi lesquels Ramyul Jimar, le jet de pierre sur les stèles, qui est un des rites obligatoires pendant le pèlerinage et qui se répète plus que les autres. Car les rites du pèlerinage, parmi lesquels le jet de pierre sur les stèles, se répètent plusieurs fois. Le jet de pierre, c'est une action qui se fait le jour du Eid, mais aussi le jour suivant, le deuxième jour et le troisième jour, de façon recommandée. Le troisième jour est recommandé. Et chaque fois qu'on lance les pierres, on lance un nombre de 7 pierres sur chaque stèle. Sauf le jour du Eid, on lance 7 pierres sur une seule stèle. Ça fait 7 pierres le jour du Eid, puis 7 pierres fois 3 le jour suivant, 7 pierres fois 3 le jour suivant, 7 pierres fois 3 le jour suivant. 7 pierres le jour du Eid, 21 pierres les jours qui suivent. Et si l'on additionne tout cela, on arrive à 70 pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. Le tawaf autour de la maison, les va-et-vient entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et le jet de pierre sur les stèles, toutes ces choses-là ont été légiférées uniquement pour que le rappel d'Allah soit proclamé. On voit ici que le jet de pierre, la lapidation, a été légiféré par Allah Azza wa Jal pour évoquer le nom d'Allah. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque l'on jette une pierre, on prononce Allahu Akbar, le takbir. Chaque pierre que tu lances, cette action-là représente quelque chose d'immense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose de tellement immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite de deux hommes venus l'interroger sur les différentes récompenses à gagner à travers chacun des rites du pèlerinage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré les différentes récompenses, il a dit à son interrogateur, s'agissant du jet de pierre, وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَصَاتٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرَ كَبِيرَةٍ مِنَ الْمُوبِقَاتِ. Quant à la lapidation, quant au jet de pierre sur les stèles, sache qu'à chaque pierre que tu lanceras, on t'effacera un grand péché parmi les péchés destructeurs. Subhanallah. Tu jettes une pierre, Allah te lave d'un péché immense. On ne parle pas des péchés mineurs. On parle des péchés destructeurs. Al-mubiqat, les péchés qui causent des ravages, les péchés gravissimes. Chaque pierre que tu lances, Allah te décharge d'un de ces péchés que tu as sûrement commis dans ta vie. Un jour, nous étions à la lapidation, à Mina. Après avoir jeté les pierres, sur le chemin du retour, j'ai dit à une personne avec moi, « Subhanallah, est-ce que tu te rends compte que là, tu viens de jeter 21 pierres, donc 7 fois 3 ?» Si Allah te l'a accepté, cela veut dire qu'il t'a déchargé de 21 péchés majeurs que tu aurais commis dans ta vie. Et c'est là que cette personne s'est mise à fondre en larmes. Allahu Akbar. Et elle m'a dit, tu viens de faire revivre en moi un grand espoir en la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Voilà les objectifs du pèlerinage. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte que pendant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa chamelle et il a fait monter derrière lui Usama ibn Zayd, qui était l'un des gens les plus aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait monter derrière lui et il a eu donc cet honneur, ce privilège d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le dos de sa chamelle, assis derrière lui, de Arafat jusqu'à Al-Muzdalifa. Une fois arrivé à Al-Muzdalifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait descendre et a fait monter à sa place Al-Fadl ibn Abbas, le frère de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum ajma'in, de Al-Muzdalifa jusqu'à Mina. Et ces gens-là témoignent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de prononcer la talbiya jusqu'à ce qu'il lapide ou qu'il lance les pierres sur la grande stèle le jour du Eid. C'est là qu'il s'est arrêté de prononcer la talbiya sallallahu alayhi wa sallam. Puis, les jours qui viennent après le Eid, le 11, le 12 et le 13 du mois de Dhul-Hijjah, on peut aussi dire le premier, le deuxième et le troisième jour après le Eid. Ça reviendra au même. Pendant ces jours-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait le zénith pour aller lapider les stèles. Le zénith, c'est à peu près 20 minutes avant la prière de Dhuhr. Il attendait ce moment-là. Lorsque ce moment-là arrivait, il allait lapider les stèles sallallahu alayhi wa sallam. Il lapidait d'abord la première, celle qui est plus proche de Mina, et il se tenait à droite, debout, les mains levées en direction de la Qibla, à invoquer Allah de façon très longue. Certains savants ont dit qu'il a levé ses mains et il a invoqué Allah autant de temps qu'il faut pour lire la sourate al-Baqarah. Puis, il s'est dirigé vers la deuxième stèle qu'il a lapidée à 7 reprises, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et il s'est tenu sur la gauche, les mains levées, en direction de la Qibla, a invoqué Allah encore une fois, sallallahu alayhi wa sallam, puis il est descendu jusqu'à la troisième stèle qu'il a lapidée, et il s'en est allé directement après avoir lapidé la troisième stèle, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut comprendre quelque chose. Quand on parle du jet de pierre sur les stèles, il ne s'agit pas de lapider Shaitan physiquement et réellement. Mais c'est plutôt un rappel et une manière de le lapider dans le sens de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si tu veux lapider Shaitan, tu dois adorer Allah. Plus tu adores Allah, plus tu lui fais du mal. Plus tu obéis à Allah et tu suis ses ordres, et tu suis le prophète alayhi salatu wassalam, plus tu fais du mal à Shaitan. C'est ça qui est voulu. Ce n'est donc pas une véritable lapidation. Il n'est pas là devant toi à recevoir ton coup, mais il reçoit le coup que tu lui mets en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi une manière de suivre le prophète Ibrahim, alayhi salam. Car le prophète Ibrahim, alayhi salam, a lapidé Iblis, par contre, il l'a véritablement lapidé. Et c'est la base pour laquelle cela a été légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat As-Safat, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Nous lui avons fait l'annonce de la bonne nouvelle d'un enfant indulgent. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Et lorsque cet enfant a atteint l'âge de la pleine maturité, قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Il lui dit, « Oh mon fils aimé, je me vois en rêve en train de t'immoler, de te sacrifier. Regarde, dis-moi ce que tu en penses. » قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ. Son fils lui répondit aussitôt, « Oh mon père, fais ce qui t'est ordonné. سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Et tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des endurants. » Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, a dit, « Lamma ata Ibrahimu khalilullahi salawatullahi wa salamuhu alayhi al-manasik. » Lorsque Ibrahim, le très aimé d'Allah, est arrivé à l'endroit des manasik, des rites, à Mina, « arada lahu shaytan. » Un shaytan est apparu à lui. « Inda jamratil aqaba. » Au niveau de la stèle appelée Jamratul Aqaba. Faramahu bi sab'i hasayat. Ibrahim l'a lapidé avec cette pierre. Hatta sakha fil ard. Jusqu'à ce qu'il s'est englouti ou il est entré dans la terre. Thumma arada lahu 'inda al-jamrati thaniya. Puis il s'est montré encore une fois à lui à l'endroit de la deuxième stèle. Faramahu bi sab'i hasayat hatta sakha fil ard. Ibrahim l'a lapidé à l'aide de sept pierres jusqu'à ce qu'il soit entré dans le fond de la terre. Puis au niveau de la troisième stèle, un shaytan est apparu encore une fois à lui et Ibrahim l'a lapidé avec sept pierres. Abdullah ibn Abbas a dit, « فَالشَّيْطَانُ تَرْجُمُونَ وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ تَتَّبِعُونَ. » C'est donc le diable que vous lapidez et la voie et la religion de votre père Ibrahim que vous suivez. La lapidation des stèles, comme nous l'avons dit, est un acte qui se répète très souvent, plusieurs fois même, dans le pèlerinage. Et la base de cela est la soumission à Allah, Azza wa Jal. L'imam ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, a dit, « فَإِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارِ. Lorsque tu jettes les pierres sur les stèles, فَقْصِدْ بِذَلِكَ الْإِنْقِيَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَإِذْهَارَ الرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ وَمُجَرَّدَ الْإِمْتِثَالِ مِنْ غَيْرِ حَظِّ النَّفْسِ. Alors, aie pour objectif de te soumettre à l'ordre d'Allah et de manifester la servitude et la dévotion pour lui. Et le fait de suivre strictement l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des sagesses derrière cette lapidation des stèles. Parmi celles-ci, premièrement, le rappel de l'animosité qu'il y a entre Shaytan et les enfants d'Adam qu'il fait tout pour égarer. Le savant Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, a dit « فذكر الله الذي فذكر الله الذي يشرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان. » Le rappel d'Allah pour lequel a été institué ou légiféré la lapidation, ça consiste à suivre le prophète Ibrahim alayhi salam dans l'animosité qu'il a eue avec Iblis. Fi adawati shaytan wa ramihi wa adami l'inqiyadi ilayhi. dans le fait de le détester, de le lapider, de ne pas se soumettre à lui. Wallahu yaqul, et Allah dit, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمُ. Vous avez certes en la personne de Ibrahim un bon modèle à suivre. فَكَانَ الرَّمْيُ رَمْزًا وَإِشَارَةً إِلَى عَدَاوَةِ الشَّيْطَانِ الَّتِي أَمَرَنَا اللَّهُ بِهَا فِي قَوْلِهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. Le fait de lapider, de jeter les pierres sur les stèles, est donc un symbole rappelant l'animosité qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne d'éprouver vis-à-vis de Shaytan quand il nous dit dans le sens du verset, certes le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme ennemi. Également, Allah Azza wa Jal a dit, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ. Allez-vous le prendre ainsi que sa descendance en allié en dehors de moi alors qu'ils vous sont ennemis? Allah nous incite à prendre Iblis comme ennemi. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّجْمَ بِالْحِجَارَ مِنْ أَكْبَرِ مَظَاهِرِ الْعَدَاوَةِ. Et nul doute que parmi ceux qui montrent le plus l'animosité témoignée, c'est le fait de lapider, de jeter des pierres. Fin de citation. Ainsi, le croyant sait qu'il doit détester Shaytan, il doit détester les diables parmi les djinns et même parmi les hommes qui font tout pour l'égarer de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit prendre garde à ses ruses, aux ruses de Iblis. Deuxièmement, lorsque l'on lapide, lorsque l'on lance les pierres, il est prescrit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala entre la première et la deuxième stèle, puis entre la deuxième et la troisième. Et il fait partie de la sunna d'allonger les invocations. Pourquoi? Parce que on cherche à faire vivre le ressenti que l'on doit avoir dans le cœur lorsqu'on invoque Allah, qu'on supplie Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième chose qu'on pourrait citer, le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit, التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد ترمي بسبع حصيات كالطواف سبعا والسعي سبعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. Le fait de lapider, de jeter cette pierre, renferme une immense sagesse qui est le rappel de ce qu'Allah a prescrit pendant le pèlerinage. Vous voyez que l'on doit lancer cette pierre. On doit tourner autour de la Kaaba en faisant 7 tours. On doit faire les va-et-vient entre As-Safa et Marwa au nombre de 7 également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites œuvrer de façon impaire, car Allah est impair et il aime ce qui est impair. Subhanahu wa ta'ala. Quatrième chose que l'on pourrait citer, c'est que la religion de l'islam est une religion d'application des ordres. Et le musulman est ordonné ou reçoit l'ordre d'Allah Azza wa Jal d'adorer Allah selon ce que disent les textes. Quand bien même il ne connaîtrait pas les sagesses, ce n'est pas une obligation ni une condition pour appliquer une obligation d'en connaître là où les sagesses. Faites attention à cette ambiguïté qui est propagée par ceux qui prétendent la compréhension à travers la raison, l'aqlaniyoun. Faites attention à ces gens-là qui vous disent que tout ce que tu fais dans ta religion, tu dois absolument connaître la raison pour laquelle tu le fais. C'est faux. Parfois Allah t'informe de la raison, parfois il te fait découvrir la raison, et parfois il cache la raison dont il est lui connaisseur, afin de t'éprouver, car l'objectif est aussi de t'éprouver afin que tu montres combien tu lui es soumis. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Adam alayhi salam de ne pas toucher de l'arbre, est-ce qu'il lui a informé de la sagesse? Non. Mais il lui a dit de ne pas y toucher et que s'il y touchait, il allait regretter, il allait être attristé. Et Adam ne lui a pas demandé pour quelle raison. On ne doit pas forcément connaître la raison des ordres ou des interdits d'Allah. Mais si on connaît Allah, on sait que c'est pour notre bien. Subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, toujours de ce que dit le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, la lapidation fait ressentir aux musulmans la modestie et l'humilité qu'il doit ressentir envers Allah en accomplissant les ordres d'Allah. Et également, ça habitue le musulman à ordonner ses actions, à ordonner ses entreprises, car la religion d'Allah nous appelle à l'ordre, nous appelle à l'organisation. Tu organises tes actions, tes différentes démarches, comme on te demande d'ordonner tes adorations d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, toujours de ce que dit le Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع ربه. Le fait de garder les pierres et de ne pas les lancer autre part que dans leur endroit fait ressentir aux musulmans l'importance de préserver les ordres d'Allah et d'en prendre soin. Subhanahu wa ta'ala. Et on a terminé avec le jet de pierre sur les stèles. Vient après cette action-là un autre rite qui est l'immolation, le sacrifice des bêtes. Ces bêtes-là, ça peut être un mouton ou ça peut être aussi le septième, en tout cas la bête entière, ça sera une vache, un chameau sur lequel on s'associe à 7. Chaque personne parmi les 7 qui prend une part aura l'équivalent d'un mouton sacrifié. Et ce sacrifice-là, on l'appelle al-hadi. Al-hadi, ce mot qui ressemble à al-hadiya, que l'on peut traduire par le cadeau. Al-hadi, c'est l'offrande. On l'appelle comme ça parce que c'est un sacrifice qui est une offrande que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, Ali a dit, « Ahda al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallama mi'ata badana, fa'amarani biluhumiha faqassamtuha. » Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, nous dit, « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait immoler 100 chameaux. Il a ramené avec lui 100 chameaux, sachant qu'un seul était suffisant. Mais il y a une sagesse que vous allez comprendre dans quelques instants, inshallah ta'ala. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, a fait partager justement les viandes et même les peaux pour les distribuer. L'imam ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, a dit, ثم انصرف الى المنحر. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers al-manhar, l'abattoir, bimina, amina, fanahara thalathan wa sittina badana biyadihi. Il a sacrifié avec sa main 63 chameaux. Wa kana yanharu qa'imatan ma'qula yaduha اليسرى وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené 100 bêtes et il en a sacrifié 63. Chacune d'entre elles avait le pied gauche attaché. Pourquoi est-ce qu'il en a sacrifié 63? Il y a une grande sagesse derrière cela. Vous savez que le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est appelé Hajjatu al-wada', le pèlerinage d'adieu. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, après le jour de Arafat, a vécu 81 nuits, comme l'a énoncé Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, c'est-à-dire 2 mois et demi. Le prophète, alayhi salatu wa salam, est mort 2 mois et demi après le pèlerinage. C'est le pèlerinage d'adieu. Et les savants qui expliquent sa biographie nous disent qu'il y a des signes précurseurs de sa mort, parmi lesquels le fait qu'il ait sacrifié 63 chameaux, comme pour dire « j'ai 63 ans, je vais bientôt mourir ». Et c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui a sacrifié le nombre restant de bêtes, 37 bêtes. Radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a sacrifié ou a fait au total sacrifier 100 bêtes alors qu'une seule était suffisante? Parce que le sacrifice fait partie des actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les actes les financiers qui se font avec de l'argent, puisque tu dois acheter la bête, les plus aimés d'Allah. Alors il a voulu augmenter le nombre de bêtes pour augmenter la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il est bien de sacrifier une bête, mais toute personne ayant les moyens de multiplier le nombre de bêtes selon ses capacités financières, alors on l'encourage à le faire pour vénérer Allah, pour dépenser fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle, subhanallah, après avoir fait une assise à Mina, du moins à Mecca, de préparation au rite du pèlerinage, je me rappelle d'un frère, d'un homme, qui a fait 50 bêtes. Quand il a entendu cela, que le prophète a fait sacrifier 100 bêtes pour vénérer Allah, c'est un homme à qui Allah a donné des moyens et des largesses. Il a fait sacrifier 50 bêtes. Allahu Akbar. Quoi qu'il en soit, une bête est suffisante et c'est ce qui est demandé pour le jour du Eid. Attention, certains pensent qu'il s'agit du sacrifice du Eid. Non, c'est le sacrifice du Hajj qu'on appelle Al-Hadi, l'offrande. Quant au sacrifice du Eid, c'est ce qu'on appelle Al-Udhiya. Il faut les distinguer. Le mouton que vous sacrifiez pour le pèlerinage, c'est un rite du pèlerinage. Ce n'est pas le mouton que l'on fait chaque année pour la fête du Eid. Ça, c'est Al-Udhiya, c'est autre chose. Donc c'est important de le savoir. Il y a des sagesses que l'on peut tirer et des secrets que l'on peut tirer ou que le croyant doit avoir au cœur lorsqu'il fait le sacrifice ou lorsqu'il fait faire le sacrifice. Car en réalité, il y a tellement de monde maintenant que les gens ne font plus le sacrifice. Pour une question d'organisation, je vous laisse vous imaginer des millions de personnes, chacun avec son mouton et son couteau, personne ne va s'en sortir et l'endroit va être très sale. Du coup, il y a des abattoirs et des gens qui sont là pour le faire en votre nom. Premièrement, parmi les sagesses, il y a la vénération d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dont il faut évoquer le nom de façon obligatoire lors du sacrifice de la bête. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet des bêtes justement, « فَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا » Évoque le nom d'Allah sur celle-ci, c'est-à-dire lorsque tu la sacrifies. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, « كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهِ » Ainsi, Allah vous a assujetti les bêtes, il les a mis à votre service, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, c'est-à-dire afin que vous vénériez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit plus loin, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. Et les chameaux, les bêtes sacrifiées, nous en avons fait des emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez qu'Allah Azza wa Jalla a dit: "Wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub." et quiconque vénère les emblèmes d'Allah, alors cela fait partie de la piété des cœurs. Deuxièmement, la sincérité envers Allah lors du sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ » Ce ne sont pas leurs viandes ni leur sang qui atteignent Allah lorsque vous sacrifiez les bêtes. Mais ce qui atteint Allah, c'est la piété venant de vous. Le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah a dit « Ey, laysa al-maqsudu minha dhabhaha faqat » C'est-à-dire que l'objectif pour lequel on sacrifie les bêtes n'est pas le simple fait de les sacrifier. Et c'est pareil, ça on peut aussi le dire pour le jour du Eid, mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas seulement de sacrifier une bête, de manger de la viande et de passer un moment. Mais il s'agit de faire couler le sang de la bête en vénération pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Sa'di a dit وَلَا يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا شَيْءٍ مِنْ لُحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا شَيْءٍ لِكَوْنِهِ الْغَنِيَّ الْحَمِيدُ وَإِنَّمَا يَنَالُهُ الْإِخْلَاصُ فِيهَا وَالْإِحْتِسَابُ وَالنِّيَّةُ الصَّالِحَةُ Ce n'est que la sincérité qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Qui atteint Allah, c'est-à-dire qui arrive à Allah azza wa jal. Et l'intention pieuse. C'est pour ça qu'Allah a dit وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Mais c'est la piété de vous qui atteint Allah. Ibn Sa'di a dit فَفِي هَذَا حَثٌ وَتَرْغِيبٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي النَّحْرِ Il y a en cela un encouragement à la sincérité lors du sacrifice. وَأَنْ يَكُنَ الْقَصْدُ وَجْهَ اللَّهِ وَحْدَهِ لَا فَخْرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَلَا مُجَرَّدَ عَادَةً وَهَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ إِلَّمْ يَقْتَرِنْ بِهَا الْإِخْلَاصُ وَتَقْوَى اللَّهِ كَانَتْ كَالْقُشُورِ الَّذِي لَا لُبَّ فِيهِ والجسد الذي لا روح فيه subhanallah. Ibn Sa'di a dit de même que toutes les adorations qui ne sont pas accompagnées de sincérité et de piété envers Allah, alors elles ressemblent aux épluchures qui n'ont rien à l'intérieur, dans l'expression une coquille vide, ou un corps n'ayant pas d'âme, fin de citation. Troisièmement, la joie éprouvée par le serviteur, le bonheur qu'il ressent en accomplissant l'ordre d'Allah et cette adoration, particulièrement celle du sacrifice. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet du verset « Fasalli li rabbika wanhar » Prie pour ton Seigneur et sacrifie les bêtes pour lui. Il dit « Wa ajallu al-ibadat al-maliya an-nahar » وأجل العبادات البدنية الصلاة وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات ابن تيمية رحمه الله تعالى a dit et l'adoration financière la plus grande qui soit est le sacrifice et l'adoration physique la plus grande qui soit est la prière et où est-ce que on retrouve justement la prière et le sacrifice réunis dans le pèlerinage. C'est pour ça aussi que le pèlerinage fait partie des grandes actions. Parce que tu dépenses pour Allah Azza wa Jal pour sacrifier la bête et tu dépenses de ta santé physique pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque tu sacrifies, tu dépenses de l'argent que tu aimes pour celui que tu aimes plus, qui est Allah. C'est une manifestation claire de l'amour que tu as pour Allah. Même quand tu fais ton pèlerinage d'ailleurs, tout l'argent que tu dépenses pour entreprendre ce long voyage, on sait très bien que c'est très cher. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être conscient de cela. Ne pense pas, cher musulman ou musulmane, que tu vas au Hajj parce que tu as les moyens. Mais tu vas au Hajj parce qu'Allah t'a donné les moyens. C'est un grand bienfait. Et ces moyens-là, tu aurais peut-être voulu les dépenser dans tel ou tel projet. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens font. Ils ne vont pas au Hajj parce qu'ils dépensent cet argent ailleurs. Ils n'ont pas préféré le Hajj à ce dans quoi ils ont dépensé cet argent. qui n'est pas une nécessité. Mais toi, quand tu dépenses de cet argent, tu le fais pour Allah. Quand tu dépenses pour la bête, tu le fais pour Allah. Alors, ça te met la joie au cœur, car tu t'es débarrassé de quelque chose que tu aimes, que tu aurais bien voulu utiliser ailleurs, à la recherche de celui que tu aimes plus et que tu préfères, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et vous vous souvenez l'histoire de ce sacrifice, du moins du sacrifice du Eid. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de l'histoire de Ibrahim alayhi salam, qui doit sacrifier son fils par révélation d'Allah. Il va voir son fils et lui dit: je me vois en rêve en train de te sacrifier. Dis-moi ce que tu en penses. On va méditer un peu plus profondément ces versets-là de Surat As-Safat. Ibrahim alayhi salam dit à son fils: Ya Bunay, ô mon cher enfant. Les savants disent qu'il lui dit ô mon cher enfant parce qu'il va lui informer qu'il doit le sacrifier. Et pour que son fils ne croie pas que Ibrahim sacrifie son fils parce qu'il ne l'aime pas, il l'interpelle avec amour et affection. Ô mon cher enfant, inni ara fil manami anni adbahuk. Je me vois en rêve en train de te sacrifier. Et le verbe utilisé ici est conjugué au présent. Je me vois en rêve. Et quand il est conjugué au présent, il est l'indice que le rêve se reproduit. Ibrahim n'a pas rêvé une seule fois, mais il a rêvé plusieurs fois. Je me vois, c'est-à-dire je me vois constamment en rêve en train de te sacrifier. Il lui dit ensuite, Fanzur madha tara. Regarde, qu'en penses-tu? Vous pensez que Ibrahim alayhi salam est en train de lui demander son avis vraiment? Au point où si Ismaïl lui dit non, je ne veux pas que tu me sacrifies, alors Ibrahim ne va pas exécuter l'ordre d'Allah? Et bien sûr que si, il va exécuter l'ordre d'Allah. Mais il amène l'ordre d'Allah avec sagesse et avec douceur. Et là, on tire une très grande leçon dans l'éducation des enfants. Il n'y a aucun mal, des fois, à demander l'avis de ton fils ou de ta fille dans quelque chose que tu vas lui demander de faire. C'est-à-dire de lui amener l'ordre sous la forme d'une demande d'avis. Certains disent: et comment ça? Pourquoi est-ce que je vais demander l'avis de mon fils? Qui il est, lui? Je suis le père, je suis la mère, je n'ai pas à demander l'avis. Mais on te parle de sagesse, de douceur. Ibrahim alayhi salam demande l'avis à son fils dans une révélation d'Allah Azza wa Jal qui lui demande de sacrifier son fils. Il lui dit: je me vois en rêve en train de te sacrifier. Dis-moi, qu'en penses-tu? Subhanallah. Mais regardez, quand l'enfant est bien élevé, c'est qu'il va répondre. Ismaïl alayhi salam dit: Qala ya abati. Il lui répond: ô mon cher père, tout comme tu m'as appelé mon cher fils, moi aussi je sais que tu es mon cher père. If'al ma tu'mar. Fais ce qui t'est ordonné. Ismaïl alayhi salam lui dit: ya abati. Ô mon père, mon cher père. Et c'est ce que Ibrahim disait à son père quand il l'appelait à Allah Azza wa Jal. Ya abati. Ô mon cher père. Pourquoi est-ce que tu adores ce qui ne voit pas, ce qui n'entend pas, ce qui ne peut te profiter en rien? Ô mon cher père, j'ai une science que tu n'as pas. Et qu'est-ce que son père lui a dit? Son père l'a chassé. Son père lui a dit: va-t'en ou je te lapide. Ibrahim a patienté et a respecté son père. Les savants disent: en récompense, Allah lui a donné un enfant qui s'est adressé à lui comme lui s'adressait à son père. Si tu veux que ton enfant s'adresse bien à toi, avec toi, adresse-toi bien avec, ou parle correctement envers ton parent et tu verras que tu auras un enfant qui fera pareil. Il lui dit: Ya abati, if'al ma tu'mar. Ô mon cher père, fais ce qui t'est ordonné. Il ne lui dit pas: sacrifie-moi. Alors que Ibrahim a dit: je me vois en rêve en train de t'égorger. Il ne lui répond pas: ô mon cher père, égorge-moi. Il va plus profond dans la soumission. Il lui dit: ô mon père, tu fais ce qu'Allah te demande de faire. Il veut que tu m'égorges, égorge-moi. Il veut que tu fasses telle autre chose, fais telle autre chose. L'essentiel, ce qu'Allah te demande de faire, fais-le. Satajiduni insha'Allah minas sabirin. et tu me verras, incha'Allah, du nombre des patients. » Parce que Ismaïl savait que des gens avaient été éprouvés avant lui et qu'ils avaient patienté et réussi, alors il a voulu être du nombre des patients. Puis Allah Azza wa Jal voit son noble prophète Ibrahim alayhi salam prendre son fils, l'allonger au sol et prendre la lame, s'apprêtant à lui couper la gorge. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal lui a mis à la place un mouton. Et après ça, nous, on sacrifie la bête en souvenir de cette noble action. Et Allah Azza wa Jal a dit « Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin » Cela fut une épreuve évidente, une épreuve évidente claire par laquelle Allah Azza wa Jal a montré la pureté de Ibrahim et de son fils Ismaïl. Allahu Akbar. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit فَلَا عَيْبَ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَحَبَّتِهِ لِأَهْلِهِ وَعِشْقِهِ لَهَا إِلَّا إِذَا شَغَلَهُ ذَلِكَ عَنْ مَحَبَّةِ مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَاحَمَ حُبُّهُ وَزَاحَمَ حُبَّهُ وَحُبَّ رَسُولِهِ فَإِنَّ كُلَّ مَحَبَّةٍ زَاحَمَتْ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِحَيْثُ تُضْعِفُهَا وَتُنْقِصُهَا فَهِيَ مَذْمُومَةٌ. Il dit, il n'y a pas de mal à aimer, par exemple, son épouse, à l'aimer tendrement, à aimer les siens et ses proches, tant que cet amour-là ne nous distrait pas de l'amour de ce qui est plus utile, tel que l'amour d'Allah et de son messager. Et tant que cette chose-là que l'on aime ne prend pas la place de l'amour d'Allah et de son messager. Car tout amour qui prend la place de l'amour d'Allah et de son messager, c'est un amour blâmable. Et c'est ça que le prophète Ibrahim a manifesté, alayhi salam, lors du sacrifice. Après cela, il y a le fait de raser la tête ou de couper les cheveux ou les raccourcir. Et pour les femmes, couper ne serait-ce que ce qui correspond à une phalange de cheveux. Le fait de raser la tête pour les hommes ou de raccourcir les cheveux est l'une des obligations du pèlerinage et de la umra. L'homme a le choix soit de raser à la lame, soit d'utiliser la tondeuse ou le ciseau pour raccourcir ses cheveux. Quant à la femme, elle prend ses cheveux et elle coupe l'équivalent d'une phalange, c'est-à-dire, je ne sais pas, 2 centimètres peut-être. Et ça, ça nous permet également de sortir de l'état d'ihram pour la Umra et pour le Hajj lorsque l'on a fait une autre action, soit la lapidation des stèles ou le tawaf. Allah Azza wa Jalla a dit « وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ » Dans le sens du verset, ceux qui ont apporté avec eux des moutons, il y a plusieurs façons de faire le pèlerinage, on ne va pas s'étaler sur ça, parmi lesquelles une où tu prends le mouton avec toi et tu l'amènes jusqu'à Mina. Ceux qui agissent ainsi ne doivent se couper les cheveux que lorsque la bête arrive à son endroit où elle va être sacrifiée. Ce que l'on retient de ce verset, c'est la notion de raser les cheveux. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu nous dit حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a rasé ses cheveux et certains des compagnons aussi, et pour d'autres ils ont raccourci leurs cheveux. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a invoqué Allah Azza wa Jal à 3 reprises en la faveur de ceux qui choisissent le rasage plutôt que de se raccourcir les cheveux. Il dit un jour, « Allahumma arhamil muhalliqin, ô Allah, accorde ta pitié à ceux qui se rasent. » Et là, le prophète et le compagnon, radiyallahu anhu, dit, « Wal muqassirin, et ceux qui se raccourcissent, ô messager d'Allah. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Allahumma arhamil muhalliqin, ô Allah, accorde ta pitié à ceux qui rasent. le compagnon, ô messager d'Allah, et ceux qui raccourcissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma arhamil muhalliqin, ô Allah, accorde ta pitié à ceux qui se rasent. Le compagnon insiste, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et à ceux qui raccourcissent. On retient ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah à 3 reprises pour ceux qui rasent les cheveux complètement parmi les hommes, et une seule fois pour ceux qui raccourcissent. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit, وَفِيهِ أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلْ مِنَ التَّقْصِيرِ. Et il y a en cela la preuve que le rasage est meilleur que le raccourcissement des cheveux. وَوَجْهُهُ أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعِبَادَةِ وَأَبْيَنُ لِلذُّلِّ وَالْخُضُوعِ وَأَدَلُّ عَلَى صِدْقِ النِّيَّةِ وَالَّذِي يُقَصِّرُ يُبْقِي عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا يُتَزَيَّنُ بِهِ بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى وفيه إشارة إلى التجرد. Ibn Rajab rahimallah a dit, c'est aussi une preuve, ou alors c'est plus, ça montre plus le degré d'adoration, de soumission, d'humilité envers Allah et d'intention sincère. Car celui qui laisse de ses cheveux laisse quelque chose avec quoi on peut s'embellir. Mais celui qui rase, il ressent au moment du rasage qu'il s'est délaissé de quelque chose avec quoi il s'embellit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des sagesses à retenir du rasage et du raccourcissement des cheveux. Premièrement, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'humiliant devant lui. Deuxièmement, l'épanouissement que ressent le musulman qui rase et même qui raccourcit, car il bénéficie de l'invocation prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur. Troisièmement, le fait de se débarrasser de quelque chose que l'on aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, il y a tawaful ifada. Le jour du Eid, on fait ce que l'on appelle tawaf ul ifada, le grand tawaf. Le tawaf du déferlement. Il représente un des piliers du pèlerinage que le pèlerin doit mettre en pratique le jour du sacrifice, et il peut même le retarder pendant les 3 jours suivants et même plus encore. Allah Azza wa Jalla a dit وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'ils accomplissent ensuite le tawaf autour de la maison antique, de la maison ancienne. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afada yawman nahri fa salla dhuhra bi Mina, que le prophète alayhi salatu wa sallam est allé faire le tawaf le jour du sacrifice, puis il est revenu à Mina et a prié la prière du dhuhr. Regardez ce qui est très, très intéressant. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a dit « Qadimtu ila Mecca. Je suis arrivé à la Mecque. Fa'idha ana bi abi abdillahi Ja'far ibn Muhammad qad anakha bil abtahi faqult. Et j'ai trouvé là-bas Abu Abdillah Ja'far ibn Muhammad installé à l'endroit appelé Al-Abtah. Je lui ai dit, Yabna Rasulillah, ô fils du messager d'Allah, c'est un de sa descendance, ô fils du messager d'Allah, Lima ju'il al-mawqifu min wara il-haram, wa lam yusayyar fil mash'ar il-haram. Pourquoi est-ce que la station de Arafat a-t-il été placée en dehors du territoire sacré et non pas à l'intérieur, comme c'est le cas de Muzdalifa, al-Mash'ar al-Haram? Faqal al-Ka'batu baytullah azza wa jall. Il répondit, la Ka'ba est la maison d'Allah, exalté soit-il. Wal-Haramu hijabuhu wal-Mawqifu babuhu. Le territoire sacré est son voile, et le lieu de station Arafat en est la porte. Il dit ensuite فَلَمَّا قَصَدَهُ الْوَافِدُونَ أَوْقَفَهُمْ بِالْبَابِ يَتَضَرَّعُونَ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ أَدْنَاهُمْ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى كَثْرَةِ تَضَرُّعِهِمْ وَطَوَالَ اجْتِهَادِهِمْ رَحِمَهُمْ فَلَمَّا رَحِمَهُمْ أَمَرَهُمْ بِتَقْرِيبِ قُرْبَانِهِمْ فَلَمَّا قَرَّبُوا قُرْبَانَهُمْ وَقَضَوْا تَفَثَهُمْ وَتَطَهَّرُوا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَتْ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَمَرَهُمْ بِالزِّيَارَةِ بِبَيْتِهِ عَلَى طَهَارَةٍ مِنْهُمْ لَهُ. Il répondit, la Kaaba est la maison d'Allah, le territoire sacré est son voile, et le lieu de station Arafat en est la porte. Lorsque les pèlerins se dirigent vers lui, il les arrête à la porte, les y fait pleurer et le supplier. Puis, lorsqu'il leur permet d'entrer, il les fait approcher de la deuxième porte qui est Al-Muzdalifa. Quand il voit l'intensité de leur invocation et la profondeur de leur engagement, il leur fait miséricorde. Et lorsqu'il leur manifeste sa miséricorde, il leur ordonne d'apporter leur offrande. Une fois l'offrande faite, qu'ils se sont purifiés de leurs péchés, qui constituaient un voile entre lui et eux, il leur donne l'ordre de visiter sa maison, afin qu'il soit dans un état de pureté pour lui. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith, wa amma tawafuka ba'da dhalik. Quant à ton tawaf après tout cela, c'est-à-dire tawaful ifada, fa innaka tatufu wa la dhanba lak. Alors sache que tu feras ce tawaf n'ayant plus aucun péché. Ya'ti malakun hatta yada'a yadahu bayna katifayk. Un ange viendra se rapprocher de toi jusqu'à poser sa main entre tes deux épaules derrière ton dos. Fayaqul i'mal fima tastaqbil faqad ghufira laka ma mada. Il te dira désormais agis pour ton avenir car ton passé vient de t'être pardonné. Ya subhanallah. Un hajj qui est fait avec le cœur ne peut pas être comme un hajj qui est fait uniquement avec le corps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la vie des cœurs et permette aux musulmans qui vont se rendre en terre sainte de profiter du pèlerinage comme il se doit et qu'Allah fasse que cette série d'audio les aide en ce sens et qu'il me pardonne mes grandes fautes par cette cause-là. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك